Vivacité, ma radio complicité. Vivacité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Loridez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la vie du bon côté. On va aborder cet après-midi, vous l'avez entendu, une notion à laquelle on est toutes et tous confrontés, la jalousie. La jalousie avec laquelle on peut parfois être miné. Miné par la jalousie, comment s'en sortir? C'est le titre de notre émission. Et d'abord, d'où ça vient la jalousie? Qu'est-ce que ça implique concrètement? Et comment tenter de la résorber? Autant de questions que l'on va aborder jusque 15h. Bonjour Marie-Pierre Prodhomme.
Bonjour Thomas.
Soyez la bienvenue dans la vie du bon côté. Vous êtes thérapeute, praticienne en thérapie brève, dont l'hypnose et l'EFT. D'abord, pour démarrer, comment est-ce qu'on pourrait définir la jalousie pour bien poser la problématique de notre après-midi?
Alors, la jalousie pourrait être simplement définie comme un souhait, un désir de posséder l'autre et d'avoir une exclusivité par rapport à l'autre. Donc un désir de possession exclusive et qui est souvent accompagné d'une peur d'être trahi par l'autre. Ouais. Une peur aussi d'être abandonné.
D'accord, très bien. On entend différentes choses hein, dans le terme jalousie. Il y a différents degrés. On n'est pas forcément... C'est pas une jalousie maladive à chaque fois.
Hein. Pas nécessairement. On peut avoir une petite jalousie qui va venir pimenter la vie de couple.
Ouais.
Mais il peut y avoir aussi des jalousies qui peuvent mener jusqu'au crime passionnel.
Ah, on va peut-être pas avoir des témoins pour ça cet après-midi, mais tout du moins s'il y a des jaloux parmi toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, eh bien vous levez le doigt et vous composez le 070 23 33 23 pour venir en parler avec nous. Vous parliez d'une peur d'être trahi et abandonné. Si je comprends bien, on va rechercher les causes de la jalousie dans le passé, c'est ça?
Généralement, oui. On l'explorera et peut-être que des personnes auront envie de témoigner par rapport à ça. Il y a des expériences qu'on peut avoir au début de sa vie amoureuse ou des expériences qui remontent à bien plus loin dans l'enfance qui vont avoir un impact sur la relation qu'on a à l'autre et le fait de devenir jaloux ou pas.
Ouais, bah on verra ça, hein, les origines de la jalousie également cet après-midi. Précisons quand même que le mot jalousie est un mot d'origine italienne, c'est ça?
C'est ça, donc qui provient du mot geloso qui signifie treillis. Ça faisait référence à un treillis qui était destiné à des femmes pour les protéger de regards inconvenants.
Ouais. Déjà à l'époque, c'était quand ça?
Alors là, vous me posez une colle, c'est très très loin.
Ouais, c'est dans le passé.
Voilà,
dans l'histoire.
C'est dans le passé. Dans le passé.
La jalousie serait-elle une sorte d'envie de mettre l'autre en cage, c'est ça, pour qu'il ne soit pas regardé?
Voilà, on peut se demander, mais qui est le plus en cage? Est-ce que c'est celui qui est l'objet de cette jalousie ou est-ce que c'est la personne qui souffre de cette jalousie qui peut être maladive, qui peut être obsédante et qui peut miner la personne qui parfois ne s'en exprime pas et qui garde ça pour elle et qui se trouve elle dans une vraie prison.
Là encore, si vous vous reconnaissez là-dedans, 070 23 33 23, on le verra, la jalousie, ce serait donc une sorte de paranoïa où le jaloux se fait des films, c'est ça?
C'est ça. On parlera même d'une capacité, entre guillemets, d'auto-hypnose négative, un auto-conditionnement où la personne va se faire des films et imaginer ce que l'autre est en train de faire au départ de pseudo-indices. Mais la personne va définir un scénario des plus improbables, se faire un film, imaginer en fait un tas de choses que l'autre aurait pu faire, sauf qu'elle le vit comme si l'autre le faisait. Donc ça peut vraiment devenir une obsession, ça peut vraiment devenir une paranoïa où on va détourner tout ce que l'autre fait en l'orientant dans cette direction de « ça me prouve qu'il me trompe, ça me trouve qu'il... ça me prouve que je ne suis plus important pour l'autre ». Donc ça peut aller jusqu'à vraiment de la paranoïa.
Jusqu'à 15h, sur Vivacité, la vie du bon côté. avec Thomas Loridez.
La jalousie au cœur de nos échanges cet après-midi dans la vie du bon côté. Le message de Françoise déjà sur la page Facebook. Pas facile à vivre. Mon ex-époux était jaloux de ma jeunesse, de mes ex-petits amis, d'une relation que j'avais pu avoir. Et du coup, cela revenait lors de chaque dispute sur le plateau. J'en ai eu tellement marre que je l'ai quitté.
Oui. Voilà ce qui est peut-être regrettable, l'histoire ne dit pas si ça a été fait, mais dans ce cas-là, une thérapie de couple va vraiment pouvoir être très très aidante, pouvoir s'exprimer sur le ressenti par rapport au passé de l'autre et aider à la communication. Parfois, certaines personnes se disent qu'il est bon de tout dire de son passé ou de ce qu'on vit ou de ce que l'on ressent. Or, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus aidant dans la relation de couple. Et là, le thérapeute va pouvoir aider à restaurer le dialogue et à mettre en place certaines stratégies. Mais tiens, quand certains sujets sont abordés, mieux vaut aller dans cette direction-là ou ne pas aborder telle thématique. Voilà. Donc, thérapie de couple, très certainement, pour moi, ça reste, s'il n'y a pas de blessure avérée d'enfance, la thérapie de couple est vraiment le meilleur moyen de travailler sur la thématique de la jalousie.
Alors, on verra les différentes solutions qui sont possibles un peu plus tard dans cette émission. On va repartir, si vous le voulez bien, en nous demandant comment se manifeste la jalousie, Marie-Pierre.
Alors, elle peut se manifester de différentes façons, jusqu'à avoir un impact physiologique où la personne peut vraiment se sentir très très mal dans son corps et avoir des problèmes physiques, physiologiques quand elle est dans cette jalousie. Ça peut être simplement une pensée, un doute. Et ça peut être cet impact au niveau corporel.
Ouais, physiologiquement, ça peut se manifester comment, par exemple? Des palpitations, un énervement?
Par exemple, des signes qui sont similaires à des signes de stress. Ouais. Tout ce qui est similaire à la menace. Menace dans le territoire. Je suis menacée, on va, entre guillemets, me prendre l'autre, on empiète sur mon territoire. C'est comme si, dans certains véhicules de la jalousie, c'est vraiment comme s'il y avait une menace de mort, presque. Donc, ça peut amener toutes sortes de conséquences physiologiques qui, au long terme, peuvent être très nuisibles.
La jalousie qui peut prendre la forme de simples soupçons ou alors aller jusqu'à l'obsession, voire le délire.
Voilà, aller jusqu'à l'obsession, aller jusqu'à ce délire où on va imaginer, tiens, l'autre ne m'a pas écouté quand j'ai dit ça, ou il a fouillé dans sa poche à tel moment, ou je l'ai trouvé un petit peu distant, ou il n'y a pas eu de sexualité depuis, je ne sais pas, moi, X temps, moins que d'habitude, où j'ai trouvé un ticket de restaurant et en fait il ne m'a pas parlé de ça, elle ne m'a pas parlé de ça. Et à partir de ça, il y a tout un film qui se fait et qui vient nourrir la croyance relative à l'autre. L'autre me trompe et cette croyance va être le filtre qui va faire qu'on va sélectionner toutes les informations qui vont venir prouver ça. Alors le revers, c'est qu'on peut arriver à faire penser l'autre à des choses auxquelles il n'avait pas pensé lui-même. Et donc on peut créer des situations qui effectivement par la suite pourraient donner lieu à une jalousie qui soit plus justifiée.
Une jalousie qui s'explique par le fait que tout cela se nourrit d'un sentiment d'insécurité, d'un sentiment de peur intrinsèque, c'est
ça ? Oui, à la base, il y a fréquemment un sentiment d'insécurité chez la personne. Il peut y avoir d'autres facteurs, mais l'insécurité, voilà, si la sécurité de base n'a pas été acquise pendant l'enfance, la sécurité qui s'acquiert au contact de la maman, qui s'acquiert lorsque la maman allaite, tous ces moments de complicité et d'hyper-proximité avec la maman vont contribuer à établir une sécurité de base. Et si ça ne peut pas avoir lieu, la personne est fragilisée et pourra être sujette à des problèmes de jalousie. Mais absolument rien n'est irrémédiable. Tout ça se travaille en hypnose, entre autres, où on peut travailler sur la récupération de cette sécurité de base.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire
c'est
que
la toute bonne nouvelle. Tout
rien n'est figé.
Exactement.
On va prolonger la conversation avec Ellie qui nous rejoint. Bonjour à vous, Ellie.
Bonjour.
Bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes institutrice et vous avez une collègue jalouse, c'est ça?
Oui, c'est ça, tout à fait. Oui.
Comment ça se manifeste? Racontez-nous ça.
Ben, en fait, donc, je suis nouvelle dans l'école depuis 2 ans et dès mon arrivée, elle a décrété qu'elle était jalouse de moi. Enfin, en tout cas, tout ce qu'elle dit, c'est toujours des reproches et chaque chose qu'elle voit, le tourne pour... Comme si je faisais des choses contre elle, quoi. Je veux dire, vous parliez de films, c'est exactement ça, en fait.
Ouais.
Elle se fait vraiment des films par rapport à moi. En fait.
Alors, comment ça s'est passé la première fois où vous êtes arrivée? Dès le départ, elle vous a pris en grippe?
En fait, moi, je ne m'en rendais pas compte. Tout le monde m'avait dit, oui, tu vas voir, c'est une chouette collègue, vous allez bien travailler ensemble, etc. Et puis, alors, en fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Elle avait tout à fait une attitude qui après, d'ailleurs, a dérouté les autres collègues par rapport à ce qu'ils savaient d'elle, en disant, c'est bizarre, c'est pas elle du tout. Et alors, au bout de quelques mois, il y a eu une petite explosion entre nous. Et là, elle a vraiment sorti, on va dire, tout ce qu'elle me reprochait. Et c'était vraiment des choses où moi, j'en pouvais rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est impossible d'avoir...
Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, d'argument qu'elle sortait?
Oui, par exemple, nos deux autres collègues, elles trouvent qu'ils m'ont trop bien accueilli dans l'équipe. Mais bon, ça dépend pas de moi.
Oui, puis c'est basé sur quels critères aussi?
Elles trouvent que je suis trop bien organisée, genre c'est louche.
Ouais. Ouais, vous êtes trop bien organisée, Élie.
Oui, c'est pas possible d'être aussi bien organisée.
Oui, exactement, c'est ça. Parce qu'on se demandait avec Marie-Pierre si là on n'était pas plus dans la convoitise quand on a eu votre message, mais là on est quand même dans la jalousie, Marie-Pierre.
Mais est-ce que cette personne a une attitude vis-à-vis de vous qui réclame une exclusivité?
Non, pas du tout.
Oui, donc est-ce qu'on serait pas plutôt dans le registre de vous jalouser dans le sens convoité, où vous paraissez organisé, où vous êtes bien accueilli par les autres,
ouais.
Où vous vivez quelque chose qu'elle aurait souhaité vivre.
Oui, sans doute.
Et qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup à Élie pour essayer d'arranger la situation, même si c'est pas elle qui est le cœur du problème?
Voilà, on peut toujours tenter le dialogue avec la personne, mais ce n'est pas gagné d'avance.
Non, voilà, c'est ça le problème.
Autrement, garder son cap et rester bien stable, s'accrocher à ce que les autres disent et à la relation aux autres personnes. Et elle, ce serait chouette qu'elle se reconnaisse et qu'elle ait envie de se faire aider, parce que elle doit souffrir énormément. Et il est probable que votre présence, la personne que vous êtes ou des choses que vous faites évoque une autre personne pour elle, ou une blessure d'enfance, ou des choses qui sont en elle. Mais vous venez là avec des caractéristiques que vous portez et qui font que ça vient réveiller des choses en elle ou des souvenirs. Donc,
le mieux que vous conseillez à Élie, c'est de rester calme finalement.
Rester tout à fait calme et ne pas se laisser influencer par ses dires ou par ses actions. Restez qui vous êtes et suivez votre route en âme et conscience.
Ça vous parle, ça, Élie?
Mais maintenant, je me suis fait à l'idée en me disant, voilà, tu dois te dire que tu n'as rien, enfin, tu n'as rien demandé, tu n'as rien cherché, c'est arrivé comme ça, malgré toi. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile à encaisser, quoi. Enfin, la première fois que je m'en suis rendu compte, quoi.
Alors, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez aussi vous faire aider pour rester avec le plus de distance possible par rapport à cette personne et pour adopter les réactions qui soient les plus adéquates. C'est-à-dire que ça peut mener à certaines interactions qui pourraient faire que la personne viennent nourrir son propre problème.
J'ai pas compris ce que vous avez dit.
Non.
J'ai pas compris.
C'est-à-dire que dans une telle relation, c'est Élie, c'est ça, hein?
Oui.
Si Élie ne reste pas suffisamment neutre et si elle ne prend pas la distance qu'il faut, il se pourrait qu'elle-même ait des réactions pour bien faire ou pour se protéger,
oui,
qui puisse aggraver la situation. Le processus et aggraver la situation. Voilà.
Ouais, mais en gros, ce qu'on est en train de dire à Elix, c'est que c'est à elle de, en gros, de se planquer, quoi, finalement, pour pas
non,
provoquer la jalousie.
Rester la plus neutre possible, mais si elle s'en sent affectée et si elle a l'impression de modifier son comportement parce que cette personne a ces attitudes-là vis-à-vis d'elle, si elle n'arrive pas à rester elle-même, là, à ce moment-là, c'est intéressant de se faire aider pour vraiment prendre de la distance et avoir les attitudes les plus adéquates possibles vis-à-vis de cette personne.
La vie du bon côté.
Avec Marie-Pierre Prodhomme, thérapeute et praticienne en thérapie brève, dont l'hypnose et l'EFT, on aura Annalys au bout du fil d'ici quelques secondes. D'abord, précisons quand même, Marie-Pierre, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, que le démon de la jalousie peut jeter son dévolu sur le compagnon, sur la compagne de vie, mais aussi, et ça c'est intéressant, sur une personne externe au couple.
Oui, donc la jalousie se place dans le cadre d'une dépendance affective. Alors, on peut se mettre à dépendre affectivement d'une personne en dehors du couple.
Mmh.
Je ne sais pas, un exemple, une dame se sent attirée par, je ne sais pas, un collègue ou prof de sport, peu importe,
par quelqu'un,
à l'extérieur du couple, et commence à entrer dans une dépendance affective. Est-ce que j'existe pour lui? Il faut qu'il m'adresse un regard, s'il m'amène de l'attention, ma journée sera magnifique, elle va commencer à prendre soin d'elle. Elle rentre dans une dépendance affective, tout se joue au niveau de l'imaginaire, et elle va avoir un besoin d'accaparer cette personne. Tout ça se fait toujours au niveau du mental. Il faut que cette personne lui donne une sorte d'exclusivité. Mais si la personne a sa vie à elle, ça va devenir insupportable. Donc il va y avoir une jalousie par rapport au conjoint de la personne, par rapport aux contacts et par rapport aux connaissances, par rapport à toute la vie sociale de cette personne.
Oui.
Donc une jalousie va se placer sur cette personne externe au couple, et là ça va amener des problèmes dans le couple, parce que c'est en fonction du film qui se sera fait sur cette personne, par rapport à cette personne, que la relation de couple, le vrai couple, va en être impacté, va en être influencé.
Ah ouais, le jaloux va mettre des distances avec sa partenaire.
Voilà, par exemple, si la personne convoitée à l'extérieur du couple marque de la distance ou ne donne pas les signes attendus, la personne se sent rejetée. Et alors, au sein de son propre couple, elle va amener une certaine distance. Elle ne pourra plus être présente à son partenaire réel. Et aussi, elle va se faire des films. Et là, on est dans un autre mécanisme, un mécanisme de projection. C'est-à-dire se dire, si moi je suis attirée ainsi par l'extérieur, si moi j'ai cette envie de tromper, alors l'autre aussi connaît ça. Et là, on est dans des mécanismes de projection qui vont aussi amener la jalousie. C'est un petit peu complexe, hein. Mais si je me sens, moi, attirée par quelqu'un d'autre, et que je développe ça, je me dis que l'autre, que mon partenaire, fait ça aussi, et donc je vais développer la jalousie. C'est une des sources de la jalousie, c'est la projection.
Le jaloux qui sera donc sujet à des sautes d'humeur à ce moment-là.
Il sera effectivement des sautes d'humeur, prendre de la distance.
Ce qui va complexifier ou compliquer la relation de couple. On va s'intéresser maintenant aux origines de la jalousie. Et avant de rentrer dans le détail, on va avoir le témoignage d'Annalys qui nous rejoint. Bonjour à vous.
Oui, bonjour Thomas, bonjour à votre
bonjour.
Invité.
Soyez la bienvenue, vous avez un merci. Fils qui habite assez loin de chez vous, et alors un
oui.
fils qui est jaloux de sa sœur, c'est ça?
Oh là là, oui, depuis toujours, en fait, sa sœur, ne se conforme pas à son standard à lui, lui est assez traditionnel, elle est assez, je dirais, exubérante, artiste, donc pour lui c'est déjà trop. Alors en plus avec la distance, ce qui complique les choses, c'est qu'il a l'impression que nous sommes toujours disponibles pour elle.
Oui.
Sa plus jeune sœur, donc la troisième, attend un bébé pour fin juin, donc du coup on se focalise aussi sur l'arrivée de ce bébé. Donc, bon, je travaille encore, je suis dans l'enseignement, donc je suis liée au congé d'enseignement belge. Lui, il est en France, donc forcément, ça ne concorde pas, donc il a toujours le sentiment d'être l'exclu, celui qu'on laisse tomber, donc c'est un peu compliqué.
Et ça fait combien de temps que ça dure ? Ça fait 20 ans, 30 ans ?
Ouh là là, il va avoir 39 ans.
Ah oui, d'accord.
Ah oui. Alors en plus, bon, il y a 6 ans de différence entre lui et sa sœur, puisque bon, entre deux, j'ai eu, une interruption
de grossesse. Bon,
une grossesse qui a mal tourné. Donc voilà. Mmh. Et c'est très compliqué à gérer, mais bon, là, maintenant, j'ai décidé de laisser mijoter et de le laisser revenir tout seul.
Et alors, votre fils, il l'explique comment parce que c'est quand même lui qui va s'exiler à 800 km de chez vous, qui est loin oui. de ses sœurs, de vos filles. Lui, oui. dit quoi et il reproche quoi à sa sœur ou ses sœurs ?
Ben, je pense que d'abord, il y a le fait que sa sœur numéro 2 ne soit absolument pas dans sa lignée.
Ouais.
Il est très traditionnel, là où elle est très expressive.
Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons que celle-ci dont vous nous avez parlé tout à l'heure ?
Ben non, je pense pas, non.
Donc
non,
il cristallise non. sur ces raisons-là parce qu'elle ne oui. lui ressemble pas finalement.
Oui, c'est ça. Donc en fait... Elle est un modèle, je pense qu'elle est un modèle à rejeter. Or, c'est quelqu'un qui est plein de ressources, plein de richesses, plein de, comment je vais dire, plein de choses positives qui rebondit. À la limite, il est en train de complètement s'exclure. Jamais il ne pense aux anniversaires de ses sœurs. C'est pas compliqué. L'une est du 25 et l'autre du 26 mars. Donc,
oui.
Ça ne s'oublie pas quand même. Hein.
On va voir ce qu'en pense un peu Marie-Pierre de votre histoire.
Oui, là, on entend cette personne qui a souffert et qui s'en va, qui choisit de prendre de la distance. Puisque c'est lui, c'est ça, vous avez dit, c'est lui qui a choisi de partir et de s'éloigner. Alors, on ne sait pas grand-chose de l'histoire, on n'entend que quelques éléments. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la différence au niveau des styles de vie. Une des hypothèses serait que votre fils ait fait, lui, entre guillemets, tout ce qu'il faut pour être aimable et rester dans les rangs. Et puis après, il y a cette sœur qui vient et qui, elle, se permet de sortir des rangs et de faire les choses comme elle les sent et qui est malgré tout aimable. Un peu comme si lui avait produit des efforts qui ne soient pas reconnus et qu'elle soit acceptée telle qu'elle l'est avec ses particularités.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller en guise de conclusion pour Annalys ? S'il y a quelque chose évidemment
alors,
à faire, parce que le fils a 39
ans. On ne sait vraiment pas suffisamment de l'histoire, mais moi je pense que quand même montrer à ce fils que la porte est vraiment, vraiment ouverte, c'est important, et faire un pas vers lui, ça ne pourrait que l'aider, parce que s'il souffre de cette sensation de rejet, il a besoin de ça, sans savoir comment il y répondra, et surtout sans savoir comment il est capable d'y répondre, mais il est peut-être dans une telle souffrance qu'il ne saura pas prendre la main qui lui est tendue ou passer la porte qui s'est ouverte. Mais je pense qu'un premier pas vers lui et lui mentionner que sa maman est toujours là et qu'elle l'aime, c'est important, et ça, voilà, ça peut être aidant pour tout le monde.
Merci à Annalys pour son témoignage cet après-midi. 070 23 33 23 pour faire pareil, et on parle un peu plus des origines de la jalousie juste après ça. La jalousie dans la vie du bon côté, on s'intéresse aux origines de la jalousie maintenant, avant d'accueillir Fabien d'ici quelques secondes. Et parmi les origines, on peut remonter dans l'enfance pour expliquer ce comportement jaloux, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc ce que j'ai mentionné, cette fameuse sécurité de base, lorsqu'elle n'est pas acquise pendant l'enfance, peut amener des problématiques comme la jalousie. Donc un enfant qui a eu la chance de vivre l'allaitement, ça c'est quelque chose qui est très important au niveau de l'attachement à la maman, va permettre de se construire plus facilement. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu l'allaitement qu'on va nécessairement avoir des problèmes, mais ça contribue à l'acquisition d'une base de sécurité. Également, les prématurés, tout ce qui empêche le contact après la naissance direct à la maman peut poser ce type de problème. Un éloignement parce que le bébé était malade, un éloignement parce que la maman a d'autres enfants et qu'elle ne sait pas gérer ou elle a un problème de santé. Cette relation à la maman est très très importante et va être déterminante à la relation qu'on va développer à l'autre également, s'il y a des frères et sœurs, tout ça est très significatif.
Donc un sevrage trop rapide à la mère. Les explications, oui. Il y a aussi le vécu ou la sensation d'abandon, de rejet.
Voilà, donc j'insiste sur le fait vécu ou sensation, l'inconscient, parce qu'ici on est quand même à des niveaux inconscients, ne fait pas la différence entre une situation réelle où l'enfant est réellement rejeté ou abandonné, ou simplement l'enfant vit une situation comme on me rejette ou on m'abandonne. Alors si ça se reproduit plusieurs fois ou de façon vraiment intense pendant l'enfance, il y a des marques, il y a vraiment
des séquelles,
et là ça peut prédisposer à la jalousie, à la dépendance affective.
Mmh. Il y a aussi le fait que l'enfant peut mal vivre le rapport amoureux de sa mère, c'est ça ?
Alors, c'est plus, mal vivre. Si par exemple, un enfant vit avec sa maman une relation vraiment exclusive, le papa est parti, et puis maman refait sa vie et quelqu'un entre dans la vie de maman, là ça va vraiment être très très difficile. L'autre vole sa maman. Il y a aussi une notion d'amour à la mère, d'être amoureux de sa maman, d'être hyper dans l'amour et dans le lien avec sa maman, et on va essayer de reproduire ça plus tard.
On va accueillir Fabien qui rejoint la conversation. Bonjour à vous Fabien, soyez le bienvenu.
Bonjour
à vous. Je crois que vous aviez des questions autour de la jalousie à poser, c'est ça ?
Je voulais savoir si... pour moi c'est quand même normal d'être jaloux dans une relation de couple.
Oui.
Je voulais connaître la limite de la jalousie.
Mais avant de vous répondre, est-ce que vous êtes un jaloux vous Fabien ?
Je ne sais pas.
On va d'abord s'interroger sur vous.
S'il vous plaît.
Non, je disais qu'on allait d'abord s'interroger sur vous. Oui. Vous êtes en couple, Fabien ?
C'est bien ça, oui.
D'accord. Et avec votre moitié, vous surveillez, vous fliquez ou alors vous êtes dans la confiance ?
En fait, ici, pour le moment, elle est en stage en France.
Oui.
Et donc, pendant la semaine, on ne se voit pas. Et elle est souvent avec le même ami. Mm-hmm. Donc, parfois, c'est vrai qu'on peut se faire des films, mais... Une fois avec cette personne-là.
Vous vous posez des questions. Et alors, quand vous demandez quelles sont les limites de la jalousie, ce seraient vos limites à vous, alors ?
Oui.
Je sais pas, c'est vous qui avez la réponse. Hein.
Je n'ai pas envie de mettre mal à l'aise non plus ma copine avec toutes mes questions. Donc... Allez.
Quelles sont les limites à la jalousie, Marie-Pierre ?
Je dirais l'inconfort que ça génère ou pas. Si la jalousie pimente juste la relation de couple et la sexualité, elle a sa place. Une demande d'exclusivité et une petite appréhension, quelque chose qui est là, qui met du piment dans le couple. Je dis, mais oui, l'autre peut séduire, je pourrais perdre l'autre. Et ça, ça peut égayer le couple, ça peut donner du piment à la sexualité. Mais la limite, c'est l'inconfort. L'inconfort physique, l'inconfort mental, la pression qu'on peut se mettre à soi, la pression qu'on peut mettre à l'autre, elle est personnelle. À partir du moment où ça génère un inconfort,
c'est un problème.
C'est une limite.
Fabien, est-ce que votre copine vous rassure quand même quant à cet ami ou alors pas ?
Oui, elle me rassure et elle me dit qu'il exagère, mais c'est vrai que parfois, voilà, par exemple, ils vont aller courir ensemble ou ils font du sport ensemble, ils vont manger ensemble. Allez, parfois, on a envie de... Ouais. Purée, ils sont toujours ensemble.
Oui, mais en même temps, vous préfériez qu'elle soit seule à l'étranger?
Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Il avait raison.
Ouais, ouais, je sais. Allez Fabien, on va s'arrêter là. Merci à vous pour votre message. Bon courage avec donc ces limites de la jalousie qui sont pas forcément évidentes à appliquer.
De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Thomas Loridez.
Et Marie-Pierre Prodhomme, qui est votre invitée, thérapeute et praticienne en thérapie brève, dont l'hypnose et l'EFT. On aura Laurent au bout du fil d'ici quelques secondes. On parlait des origines de la jalousie il y a quelques minutes avant l'info. On a parlé de l'origine de l'enfance. Deuxième possibilité d'origine qui peut expliquer la jalousie, c'est la projection. Qu'est-ce qu'on entend par là, Marie-Pierre?
Voilà, donc ce qu'on a évoqué déjà précédemment, c'est le fait d'être attiré par quelqu'un d'autre à l'extérieur du couple est insupportable, alors je projette et je me dis que c'est l'autre qui fait ça. Madame est attirée par une personne à l'extérieur du couple, elle ne supporte pas ça et elle se dit « Monsieur, lui, il fait ça ». Et donc elle va projeter son propre problème, sa propre attirance pour l'extérieur du couple. Elle va se dire, mais voilà, monsieur, lui, il fait ça. Mais moi pas. Moi j'ai pas ce problème-là.
C'est un mécanisme inconscient qui se met en place?
Ça peut être inconscient. Mais on peut être très très conscient de ses attirances et de ses pulsions pour l'extérieur du couple. Mais ce qui peut être inconscient, c'est le fait qu'on projette ça sur l'autre.
On va voir ça justement avec le témoignage de Laurent qui nous rejoint. Bienvenue Laurent, bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. La jalousie au sein de votre couple, comment ça se matérialise pour vous, dites-nous?
Ça se matérialise par plusieurs choses différentes, de la colère, de l'énervement et surtout des films. Ma compagne... fouille régulièrement mon téléphone... se fait des films alors qu'il n'y a pas l'idée de s'en faire, alors qu'elle, voici quelques temps, avait fait cette chose-là, quoi.
Ouais, elle vous a trompé?
Je ne sais pas si elle m'a trompé, mais avoir des contacts avec d'autres personnes, elle avait des contacts avec d'autres personnes, des mails effacés, des appels effacés, des messages effacés.
Et alors comment ça se verbalise, vos échanges dans ce genre de situation? Qu'est-ce qu'elle vous reproche ou qu'est-ce que vous pointez, vous, dans ces cas-là?
Le moindre mail, le moindre message de soit de collègues ou d'amis féminines ou n'importe, prend une tournure relativement assez nerveuse, parce que elle pense tout et n'importe quoi.
Et vous arrivez à la rassurer?
J'essaye tant bien que mal, mais ça devient de plus en plus difficile, et ça devient de plus en plus récurrent et agressif, et là je commence à perdre pied, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut apporter comme aide, entre guillemets, à Laurent, Marie-Pierre?
Oui. Alors, rassurer ne sert pas à grand-chose, ça ne peut faire que amplifier le problème de la jalousie. Rester le plus possible soi, travailler sur pimenter le couple et mettre du plaisir dans le couple. Faire vivre le couple autrement que par le piment jalousie. Mm-hmm. Installer autre chose dans le couple.
Mais ça a l'air quand même très ancré, d'après ce que dit Laurent.
Ouais.
Et surtout de plus en plus récurrent.
Oui, faire exister le couple d'une autre façon. Nourrissez le couple par des activités, par des plaisirs, par de l'émerveillement, mais rendre de la vie au couple.
Est-ce que c'est déjà votre cas, Laurent, ou alors plus?
Écoutez, pour l'instant, jusqu'à maintenant, j'ai fait de mon possible pour arriver à cela, pardon. Mais je vous dis, je commence à être dépassé par les événements et à moi-même ne plus, éventuellement, ne plus vouloir y arriver, quoi.
Ne plus arriver à trouver une solution pour que les choses s'améliorent, c'est ça que vous voulez dire?
Voilà, c'est ça, oui.
Voilà, ne pas nourrir, en fait, cette jalousie. Rassurer, ça peut être une façon de la nourrir, de lui donner beaucoup de place. La place qui est à donner, c'est au couple et c'est à la relation.
Ah oui, d'accord.
Ça vous inspire, Laurent?
Oui, écoutez, je vais essayer de changer de tactique et voir un peu... si dans ce sens, dans ce, ce, cette direction-là, ça marche un peu ou bien c'est... parce que là, pour l'instant, c'est...
Donner, comment les manifestations de jalousie et les demandes de réassurance peuvent être des moyens d'attirer l'attention de l'autre, et c'est demander à l'autre, est-ce que je suis important pour toi ? Et donc, si vous voulez sortir de ce cercle vicieux, c'est donner de l'importance à l'autre dans d'autres moments, des moments qui n'ont rien à voir avec ces moments de jalousie. Donc rester dans la neutralité quand il y a la manifestation de jalousie, commencer à rentrer dans des explications qui interminables, ça ne va pas sécuriser l'autre. Mais par contre, être présent en compliments, en petits mots, être présent en moments de qualité, en vraie présence, pas une présence où je suis en train de consulter mon GSM pendant que l'autre sur sa tablette, vivre des moments ensemble, nourrir le couple en faisant avec cette jalousie et ne pas nourrir cette jalousie d'une façon ou d'une autre.
Autour de la jalousie, cet après-midi avec Marie-Pierre Prodhomme, qui est thérapeute et praticienne en thérapie brève, dont l'hypnose et l'EFT. On aura Elisabeth d'ici quelques secondes au bout du fil. Mais d'abord, on va poursuivre notre tour d'horizon des origines possibles, qui expliquerait la jalousie. Et parmi ces origines, il y a entre autres le refoulement de pulsions homosexuelles.
Oui, donc... Le fait d'avoir des pulsions homosexuelles, être attiré par le même sexe, peut être dérangeant et donc peut être refoulé. Alors je vais imaginer que c'est l'autre qui est attiré par ce que je suis attiré. Et donc la personne, plus elle refoule une femme qui est attirée par d'autres femmes et qui ne sait pas accepter cette part d'attirance, elle va refouler et elle va... se dire, considérer que ce qu'elle ressent, eh bien, son conjoint le ressent pour d'autres femmes.
Elle va appliquer son schéma.
Elle va appliquer exactement son schéma à sa moitié en ayant conscience ou souvent pas conscience. C'est plus facile à se dire de son homosexualité, de sa part d'attirance pour le même sexe.
Mais ça peut expliquer un comportement excessif de jalousie.
Exactement, parce que ses pulsions à elle sont tellement fortes et c'est tellement dérangeant que c'est l'autre, quoi. Je ne l'accepte pas chez moi et ça glisse. C'est l'autre qui vit cette attirance, c'est l'autre qui vit ce désir.
Autre possibilité d'origine liée à la jalousie, c'est le besoin d'hyper-contrôle.
Voilà, donc je veux absolument savoir ce que l'autre fait, ce que l'autre ressent. Je veux être l'objet unique de désir de l'autre et je veux...
Mais comment on peut vouloir se dire de contrôler ce que l'autre ressent ? On peut vouloir contrôler ce que l'autre fait, mais ce que l'autre ressent, vouloir contrôler ce que l'autre ressent, c'est fort quand même.
C'est de l'hyper-contrôle. On est vraiment dans l'hyper-contrôle. Je veux être l'objet des pensées de l'autre, je veux être l'objet du désir de l'autre et la simple idée que l'autre peut penser à quelqu'un d'autre, désirer quelqu'un d'autre, c'est simplement insupportable pour la personne qui est dans cette jalousie. Donc elle veut contrôler la pensée de l'autre, contrôler le désir de l'autre, contrôler les actes.
Alors c'est peut-être lié aussi à l'origine suivante, à savoir le manque de confiance en soi.
Voilà, alors le manque de confiance en soi va jouer sur les deux tableaux, la personne qui a peur d'être trompée et la personne qui va tromper. La personne qui a peur d'être trompée et qui, si à l'origine il y a ce manque de confiance en soi, c'est le fait de « je ne vaux pas la peine, pourquoi est-ce que il ou elle me garderait à ses côtés, je ne suis pas aimable, je ne me fais pas confiance ». Et ce manque de confiance peut amener aussi à un besoin compulsif de séduction. Je veux me rassurer à l'extérieur, oui je peux séduire, et donc je vais lancer l'hameçon, juste vérifier sa mort, en rester là ou aller plus loin. Et encore une fois, je vais me dire, l'autre fait ça.
Le manque de confiance en soi, ça peut aussi venir d'une expérience passée négative aussi.
Voilà, avoir été trompé dans le passé, les premières expériences amoureuses, la personne s'envole, il y a une certaine naïveté qui peut accompagner ces premiers émois amoureux. Et si l'autre trahissent l'autre et simplement dans le jeu, dans la découverte, eh bien, il peut y avoir de très fortes déceptions, des blessures qui vont faire que on va perdre confiance dans la relation en général, dans sa capacité à établir une relation saine et stable et à être aimable.
Et avoir peur peut-être que le schéma se reproduise encore.
Avoir peur de ce schéma, exactement.
Ça c'est l'expérience passée négative. Il y a aussi la croyance négative, c'est-à-dire qu'on voit ce que l'on croit et non l'inverse.
Voilà. Si on a grandi dans les hommes ce sont tous des salauds ou les femmes ce sont toutes des salopes, des choses comme ça, l'enfant qui grandit en entendant ça ou en voyant des choses qui se passent chez ses parents et qui développe la croyance ça se passe comme ça, c'est universel, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, ça va agir comme une sorte de filtre qui va faire que la personne va interpréter tout ce qu'elle voit pour venir nourrir cette croyance-là. Et elle va aller jusqu'à poser des actes qui vont pousser l'autre pour lui prouver que c'est elle qui a raison, que ce sont ses croyances qui ont raison.
Oui, et puis grandir avec cette croyance négative, ça peut aussi amener à choisir un partenaire ou une partenaire plus ou moins volage, alors qu'on craint plutôt ça.
Voilà, ou le pousser à le devenir. Parce qu'on le craint, et ce qu'on veut avant tout, mais là on est dans des mécanismes vraiment inconscients, ce qu'on craint, on va le provoquer pour se prouver qu'on a raison.
On va se mettre en situation pour se prouver
Exactement,
qu'on a raison.
Exactement, oui.
Ça fait partie donc des origines de la jalousie, on a encore quelques-unes, on va voir ça d'ici quelques secondes, mais on avait envie d'accueillir Elisabeth maintenant. Soyez la bienvenue Elisabeth.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Viva. 20 ans de relation. Vous étiez jalouse? Vous l'êtes encore, Elisabeth?
Bah oui, mais avec tout ce que je viens d'entendre, je me retrouve un peu dans toutes ces situations.
C'est-à-dire, racontez-nous un peu.
C'est un peu effrayant au niveau possessif, au niveau de projection. Et effectivement, parfois, on cherche à créer une situation pour effectivement avoir raison parce qu'on a tellement eu peur. Ouais. De perdre
pour vous rassurer.
Finalement, pour se rassurer que finalement, on pousse peut-être l'autre inconsciemment à faire de mauvais.
D'accord. Votre jalousie, elle a beaucoup affecté votre couple?
Énormément.
Vous avez la radio qui est allumée derrière vous, Elisabeth?
Oui, je vais la diminuer.
Ouais, ou la couper, ce serait mieux. Merci à vous. Je vous demandais de quelle manière ça a pu affecter votre couple, cette jalousie-là, Elisabeth.
Mais je pense qu'au départ, c'est aussi le fait d'avoir accepté beaucoup de choses, ne pas vouloir partager, vouloir être le centre d'intérêt de l'autre. Ça a peut-être créé ou ne pas créer ce manque d'affection qu'on recherchait.
Oui.
Et l'un dans l'autre... découvrir aussi l'autre avec le temps, ben on se rend compte que c'était pas le bon schéma qu'on avait choisi parce qu'effectivement on se rend compte que une relation, la relation qu'on avait toujours rêvé, espéré d'avoir, n'est pas celle qu'on a eue pendant de nombreuses années.
Et vous en parlez avec votre moitié?
Ouf, c'est très difficile.
Est-ce que vous arrivez plutôt à en parler?
Non,
pas formuler du tout, comme ça.
Pas du tout.
Non, jamais. Vous n'avez pas abordé le sujet?
Si c'est déjà arrivé, mais c'est l'incompréhension. C'est plus l'incompréhension.
De son côté à lui?
Oui.
Marie-Pierre, une réaction sur le témoignage d'Elisabeth?
Oui, j'ai relevé un lapsus qui m'a interpellée, ce manque d'affection que l'on cherche.
Ah oui. Qu'est-ce que Elisabeth doit comprendre de son lapsus?
Eh bien, j'en reviens à l'explication au niveau des croyances, toutes les choses qu'on peut mettre en place pour nous conforter dans ce qu'on croit, même si c'est inconfortable. Si je crois que je vais toujours manquer d'affection, ben je vais mettre les choses en place pour justement manquer d'affection.
Est-ce que ça fait écho en vous, Elisabeth?
Ben, c'est possible, parce qu'il y a tellement de paramètres qui font que on doute, on se pose des questions et on se demande le pourquoi est-ce que ça arrive, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être le centre d'intérêt d'une seule personne, pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas moi et qu'on préfère regarder les autres, c'est beaucoup de choses.
Mais donc le fait de regarder les autres, je reviens à une des hypothèses qui est je n'ai pas confiance en moi et j'ai besoin d'être rassurée quant à ma capacité de séduction, quant à la façon dont je suis regardée par les autres. Donc je vais regarder à l'extérieur, je vais voir si je séduis, vérifier si je séduis pour me rassurer moi. Donc il n'y a pas toujours à se poser question sur soi quand le partenaire regarde à l'extérieur.
Elisabeth ?
Donc, je n'ai pas à me dire que c'est de ma faute, mais...
Pas nécessairement. L'autre... Ici, on ne connaît pas la situation. Mais en tout cas, dans les pistes de réflexion, on peut s'ouvrir à celle-là. L'autre a besoin de se rassurer, lui, et il le fait à l'extérieur. Alors, plus le conjoint... est hyper présent, plus il est là pour donner de l'attention, plus il est prévenant, au moins il aura besoin de lui. Et donc il va aller chercher à l'extérieur pour se rassurer.
Et d'ici là, la suite de la vie du bon côté avec Mona dans quelques secondes au bout du fil. D'abord un petit détour par vos messages, celui de Monique qui nous écrit « C'est un vrai calvaire la jalousie, ce sont des sous-entendus dès que possible, des doutes permanents et une vraie angoisse pour moi, alors que je travaille sans relâche et que je rentre dès que j'ai fini ma journée. » La question de Monique, comment aider pour rassurer encore plus ?
Voilà, donc je reviens sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. Rassurer ne sert pas à grand chose et peut-être
la
même
preuve,
à
encore plus,
voilà,
dit Monique.
Empirer. Donc Monique nous confirme, nourrissez le couple et pas la jalousie.
Mais en même temps, des fois c'est compliqué quand l'autre est quand même très braqué.
Oui. Mais ne pas nourrir ça et vraiment mettre de l'énergie dans nourrir ce couple.
Au 3063, également le SMS, parlez-nous de la jalousie entre voisins ou amis, nous demande-t-on.
Donc là, on est beaucoup plus dans la notion de convoitise que de jalousie.
C'est quoi la différence ?
Ben, je convoite, j'envie l'autre, j'aimerais faire ce qu'il fait, avoir ce qu'il possède, tandis que la jalousie, c'est, comme on disait en début d'émission, un désir d'exclusivité. Je veux exclusivement compter, exister pour l'autre.
Voilà pour votre question. On a Mona également qui est là par téléphone. Bonjour à vous, Mona.
Oui, bonjour à vous.
Alors vous avez un frère qui n'est plus là aujourd'hui, mais avec lequel il y avait des relations tendues, entre autres autour de la jalousie, c'est ça ?
La jalousie ou la convoitise maintenant. À la limite, suite au déroulement de votre émission, je me pose la question. Donc en fait, j'explique que c'était mon demi-frère, donc même maman, pas même papa. Nous n'avons pas été élevés aucun avec notre père, donc, ni lui ni moi, donc... élevés de la même façon, voilà.
Oui.
Quand nous étions petits, tout allait bien. Je me suis mariée un peu avant lui. Je me suis mariée beaucoup plus tôt que lui, d'ailleurs. Donc lui, il reste à la maison, bien que je sois plus jeune que lui. Et ça continuait à bien aller jusqu'au jour où je suis devenue indépendante.
D'accord.
Et là, j'essaye de comprendre le pourquoi, mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu une cassure complète. Et voilà, je l'ai revu tous les 5, 6, 10 ans, uniquement quand il y avait des choses financières à régler ensemble. Il n'y a plus personne dans la famille, mais je reste avec ce manque et ce chagrin, et surtout ce pourquoi. Il est malheureusement décédé au mois de décembre, et puis il a été malade pendant 2 ans, ne l'ayant pas vu depuis 10 ans, je ne suis pas allée sonner chez lui en disant « voilà, coucou, je sais que tu vas mourir, je viens te voir ».
Mais vous n'avez jamais eu de discussion sur ce sujet-là, jamais. Concrètement, pour avoir des pistes qui
jamais.
Pourraient vous faire avancer, non ?
Jamais.
Quand vous posiez la question, il répondait quoi ?
Oui, on ne s'est jamais posé la question, on s'est éloigné, point. Il s'est éloigné parce que j'étais mariée, il venait régulièrement chez moi, etc. Puis par la suite, il s'est marié, mais je n'ai même pas été invitée à son mariage. On se croisait chez ma maman, on n'avait pas des relations familiales extraordinaires, je veux dire, une grande famille entourée, une table, ça me manque, malheureusement, je n'ai jamais eu ça. Mais voilà, non, jamais, je n'ai jamais su pourquoi.
Marie-Pierre ?
Et est-ce que actuellement c'est quelque chose qui vous fait souffrir ?
Oui, beaucoup. Beaucoup.
Et ça a un impact sur vos relations actuelles, sur d'autres relations ?
Non, ça n'a pas d'impact, mais j'ai ce manque en moi qui restera toujours. D'ailleurs, je suis un petit peu contente de pouvoir en parler avec une professionnelle ou du moins une habituée. J'avais pensé, je ne sais pas si ça peut arranger quelque chose, d'assister un jour à une constellation familiale. J'en ai entendu parler en me disant peut-être je pourrais évacuer
constellation familiale ou un travail sous hypnose quand des choses n'ont pas été réglées avant la mort d'une personne, on peut faire un travail en hypnose qui peut vraiment être très libérateur.
Et donc ça pourrait, je n'ai aucun problème relationnel avec qui que ce soit, mais en moi toute seule en face à face avec mon miroir,
Et ça fait partie de ce qu'on peut travailler en hypnose et vraiment vous aider à vous apaiser par rapport à ce passé.
On va en parler d'ailleurs, Mona, d'ici quelques secondes.
Ça m'aidera à avancer.
Merci à vous. Merci. Bel après-midi. Alors, Mona le dévoilait à l'instant avec vous. L'hypnose qui est une solution pour s'attaquer à la jalousie. Comment ça se passe et sur quoi va-t-on travailler précisément, Marie-Pierre ?
Alors, on va travailler sur tout ce qu'on a évoqué ici, entre autres le travail sur la sécurité de base. Ce que je disais, mais voilà, même si on a eu des choses dans l'enfance qui se sont produites et qui n'ont pas été bien vécues, tout ça se travaille en hypnose. Mmh. Beaucoup de choses sont vraiment remédiables. On va travailler également au niveau de la confiance en soi, l'image de soi, travailler au niveau relationnel. Et il peut y avoir des séances d'hypnose qui soient intégrées dans le cadre d'une thérapie de couple.
D'accord.
Soit pour les deux.
Qui se font ensemble.
Ou séparés.
Mmh. Alors, la confiance en soi, on l'a dit, travailler sur la sécurité de base, c'est comment apprendre à se suffire à soi-même.
Oui.
C'est ça ?
Vous dites la confiance en soi.
Non, la confiance en soi et la sécurité de base. Troisième point, il est fréquent aussi de travailler sur la gestion de la colère et le lâcher prise, Marie-Pierre.
Oui, il ne faut pas me faire rire.
Bah oui. Donc je répète, fréquent aussi de travailler sur la gestion de la colère et le lâcher prise, c'est ça ?
C'est ça, puisque la jalousie peut générer énormément de colère. Et le lâcher prise, le fait de pouvoir prendre de la distance, l'autre n'est pas aussi présent que ce que je ne souhaiterais, l'autre fait des choses qui m'échappent ou que j'interprète. Un travail sur le lâcher prise va vraiment être très très intéressant. Et l'hypnose est vraiment un outil très puissant à ce niveau-là, l'EFT également.
Mmh. On rappelle l'EFT ?
Emotional Freedom Technique, méthode de tapping, où là, on va travailler sur les émotions et c'est un chouette outil aussi pour la jalousie, pour travailler en temps réel.
C'est la même chose que la désensibilisation des films négatifs ? Pas vraiment ?
Pas tout à fait. En hypnose, on va travailler, par exemple, aussi sur une désensibilisation. S'il y a eu une expérience négative, comme on l'évoquait tout à l'heure dans les origines probables de la jalousie, la personne a vécu une expérience négative et on va travailler en hypnose cette représentation pour que le passé soit beaucoup moins impactant pour elle.
Et puis le dernier point qui est quand même assez surprenant, c'est que vous dites que la jalousie c'est en fait de l'auto-hypnose négative.
Oui. Donc on va parler d'un auto-conditionnement. La personne va repérer tous les signes à l'intérieur d'elle et à l'extérieur. Elle va se focaliser sur ce qui va construire le film. Donc on parlera d'une auto-hypnose négative. Elle va grossir certains détails pour pouvoir constituer un scénario et pouvoir rentrer dans le film et avoir la sensation de le vivre. Donc on parle d'une auto-hypnose négative et comme elle a la capacité de réaliser ça, en thérapie on va travailler ça de façon positive. Donc utiliser le mécanisme qu'elle connaît mais à des fins positives, de la même façon qu'un trouble alimentaire est généralement le fruit d'une auto-hypnose négative, et c'est pour ça que je travaille ça en hypnose aussi, une déprogrammation de ces troubles alimentaires pour aller vers une auto-hypnose positive. Les dépendances, les phobies, tout ça, ça peut être expliqué en termes d'auto-hypnose négative.
070 23 33 23 pour les dernières 20 minutes à passer ensemble avec vos témoignages, que ce soit par SMS ou alors par téléphone.
13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité.
Catherine au bout du fil dans un instant. D'abord le message SMS de Anne qui nous dit ceci. Bonjour, lorsque j'avais 9 ans, mes parents ont adopté un enfant de 8 ans. Toute l'attention a été sur elle. J'étais jalouse et je me suis sentie abandonnée. Mes parents me disaient que c'était mal d'être jalouse et que j'étais méchante. Je devais être gentille. Je me suis toujours fait toute petite dans la vie. Maintenant j'ai fait du chemin pour oser exister. Reconnaître la jalousie comme un sentiment normal et faisant souffrir m'aurait aidé.
Oui, exactement. La solution est énoncée, pouvoir normaliser ce ressenti chez l'enfant et pouvoir l'aider à s'exprimer. Effectivement, il y a une petite sœur, un petit frère qui est arrivé. Ça va être différent. On t'aime autant. On aime tous nos enfants. Voilà.
Mais l'importance de rassurer justement.
L'importance de rassurer, mais être plus au maximum dans la prévention et associer la jalousie à être méchant ou c'est mal. C'est évidemment très très destructeur, puisque la jalousie est avant tout une souffrance et ce n'est absolument pas à dire à un enfant.
Merci à Anne pour son témoignage par SMS. Avant d'accueillir Catherine, d'après les études, la jalousie existe chez les deux sexes avec une intensité qui varie de façon similaire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc nous sommes égaux à ce niveau-là. Ce qui va différer, c'est la façon dont cette jalousie va se manifester. Chez l'homme, ça pourra prendre plus un aspect de colère et la femme pourra rentrer plus dans un état type dépression, plus se refermer, comme on a eu le témoignage. Ici, je pense que c'était Elisabeth qui disait ne pas avoir beaucoup exprimé ça à son conjoint. J'ai perçu ou j'ai interprété en tout cas plus un enfermement, plus un retrait plutôt qu'une extériorisation par rapport à la souffrance jalousie.
Alors si on est arrivé au bout du bout des explications de l'assurance, de la réassurance, on a le message de Benjamin par SMS qui dit « Je suis actuellement en train de vivre un enfer avec la jalousie de ma compagne. Au début j'arrivais à la rassurer mais je n'y arrive plus et je vis un enfer. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. »
Mais voilà, j'en reviens vraiment à ce que j'ai dit, rassurer ne sert à rien. Mettre en place ce qu'il faut pour nourrir le couple, montrer à la personne qu'elle existe, mais pas dans le moment où elle exprime sa jalousie.
Et après, advienne que pourra, si je puis dire.
Et vraiment, se faire accompagner, se faire aider, ce n'est pas un luxe quand il y a ce problème-là dans le couple.
Merci Benjamin pour le SMS. Bonjour à vous Catherine.
Bonjour.
Soyez la bienvenue.
Bonjour.
Sur l'antenne de Vivacité. Vous avez un ex-mari très jaloux du passé, c'est ça ?
Oui, en fait, mon ex-mari, il était jaloux du passé, ce qui est très difficile de changer, évidemment.
Oui.
Donc, ça se traduisait, si on allait en ville, et que on allait boire un verre quelque part, et que j'avais le malheur de dire que j'étais déjà passé par là, c'était parti pour un tour, une soirée folklorique.
D'accord, très bien. Donc ça, c'est de la jalousie côté mari, mais ça ne s'est pas manifesté que du côté de votre mari. Il y a aussi votre maman, c'est ça ?
Oui, mais donc, voilà, mon ex-mari, il est ex, donc c'est bon, là.
C'est réglé.
C'est réglé, oui. Mais par contre, ma maman, qui a maintenant 81 ans, elle a toujours été un peu jalouse de moi, mais là, c'est terrible. Elle est jalouse de ma vie privée, mais aussi de ma réussite au niveau professionnel.
Oui.
Et donc, elle va faire des commentaires aussi bien auprès de mes clients qu'auprès de ma famille, mon mari ou mes enfants. C'est assez exceptionnel.
Quand vous dites que votre maman est jalouse de votre réussite professionnelle et familiale, elle vous l'a dit ou c'est votre analyse ?
Oui, c'est peut-être mon analyse, mais moi j'ai toujours traduit ça comme ça. Elle a toujours pensé que je ne réussirais jamais. Il m'a élevé comme ça, et puis voilà, je lui trouve le contraire, et donc ça ne va pas. Et donc, c'est peut-être moi qui analyse. Hein,
on revient un peu à ce qu'on se disait tout à l'heure autour de l'enfance aussi, Marie-Pierre.
Oui. Mais j'entendais plus une notion de convoitise que de jalousie. Ou est-ce que votre maman a une demande qui est d'exclusivité
Oui, elle est très exclusive.
Oui.
Et alors bon, elle a divorcé il y a beaucoup d'années. J'avais 3 ans, j'en ai 48, donc voilà. Et alors elle me reproche de ne pas s'être mariée, etc. Donc le fait que moi je sois heureuse en famille,
en couple, mais ça, c'est très souvent leur proche. Et voilà, je pense que peut-être pour se grandir, elle espère, elle aurait espéré que je ne réussisse pas si bien. Je ne sais pas pourquoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à la situation de Catherine, par rapport à sa mère, qui soit convoite, soit jalouse la situation de sa fille?
Mais est-ce que Catherine en souffre? C'est ça la question.
Mais oui, parce que j'en perds toute ma spontanéité, évidemment.
Ah oui.
Donc je lui parle de moins en moins de ma vie et elle est exclue, évidemment.
Elle est
exclue.
Je l'exclue de ma vie.
Ah oui.
Donc vous en venez à ne plus rien raconter à votre mère.
Ah voilà, ouais.
Ouais. Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place? Il y a quelque chose, Marie-Pierre?
Très peu de données que pour donner un avis sur une telle situation.
Je pense que c'est elle qui est mal. Hein.
De ce que vous en relatez, ouais. On dirait que la souffrance est davantage chez votre maman. Et le temps avançant et l'âge étant là, au plus vous pouvez nourrir la relation pour vous sentir vous en paix et avec la conscience tranquille, voilà, c'est plutôt aller dans cette direction-là et de vous faire vous aider si ça vous affecte et si ça impacte votre vie, mais la conscience qu'on a par rapport à la relation de ses parents, pour que une fois la mort là, on soit en paix avec soi.
D'ici là, les derniers SMS, c'est le mot de la fin. Au 3063, pardon. On me dit, eh bien, moi, je suis jalouse. Cela est venu petit à petit. Ce n'est pas mon tempérament naturel, comme si cela ne m'appartenait pas. Et pourtant, ma thérapeute dit que ce sont des anciennes blessures à lui, donc je suppose à son homme, à son mari, qui provoquent cela chez moi. Que dois-je faire? Help. C'est signé Sarah.
Eh bien, proposer une thérapie de couple, hein, si le doigt a été mis sur l'origine au niveau d'un problème chez le conjoint, c'est proposer de travailler en couple. Maintenant, l'autre ne peut ne pas être ouvert à travailler en thérapie de couple, mais une des façons d'amener l'autre en thérapie de couple, c'est de lui proposer « Est-ce que tu peux venir pour m'aider, moi ?» Le thérapeute ou la thérapeute demande si tu pourrais venir à une séance pour venir parler de moi, parler de ce qui se passe entre nous, parce que finalement, elle n'a que ma, ou il n'a que ma version des faits, et que tu puisses expliquer, toi, ce qui se passe, eh bien, ça pourrait m'aider, moi. Et donc, ainsi, on propose à l'autre de s'investir, mais il n'y a pas d'invitation à se remettre en question ou à changer.
C'est pas pour le faire changer, c'est plus
exactement.
Pour aider le couple,
voilà.
C'est ça ?
Viens aider le couple. On peut commencer par « Viens m'aider, moi, j'ai besoin de ton aide et ta présence va m'aider. »
La manière d'amener les choses.
Voilà.
Merci à Sarah pour sa question et son témoignage. On s'approche de la fin de cette émission. Comme à chaque fois, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on s'est dit depuis 13h? Qu'est-ce qu'il faut retenir autour de ces questions de jalousie? La discussion qui, par moments, était un peu vive hein, dans certains témoignages. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 2 heures passées ensemble?
Alors, moi, je retiendrai la notion de la question qui a été posée au niveau de la limite de la jalousie. La jalousie peut être pimentante, peut avoir sa place, mais on se pose question à partir du moment où elle génère de l'inconfort physique ou mental chez soi, chez l'autre, dans la relation. Autre point important, ce sont toutes les sources, toutes les origines possibles de la jalousie, la base de sécurité dans l'enfance, les blessures, les expériences qui ont été marquantes, les problèmes d'image de soi, la notion de refoulement, la notion aussi de pulsion homosexuelle qui soit refoulée, non acceptée, tout ce qui est phénomène de projection. Je pense que l'autre ressent ce que moi je ressens, donc s'interroger sur ces différentes sources, travailler si nécessaire sur le lâcher prise, sur la confiance en soi, sur l'image de soi, ne pas rester dans cette souffrance, ne pas dire à un enfant que c'est méchant, que c'est mauvais d'être jaloux, mais reconnaître sa souffrance et mettre les choses en place, répondre aux questionnements, pour ne pas dire aux interrogatoires du jaloux, ne va pas non plus l'aider et nourrir davantage la relation que le questionnement sur la jalousie.
Merci à vous Marie-Pierre d'avoir passé ces deux heures avec nous. Je rappelle qu'il y a la page Facebook qui vous concerne Hypnose Liège Esneux et le site internet hypnose-liège.com. On vous a mis tous les détails sur la page Facebook de La Vie du Bon Côté.